Alors, chers amis, quelle joie d'être avec vous, quelle joie de partager ces moments à Noël, et je vous souhaite un très joyeux Noël, moi, de manière personnelle. Si jamais je ne vous vois plus, je n'ai pas un moment de vous saluer à la fin. C'est un moment fort, normalement, pour la plupart d'entre nous, mais c'est aussi un défi, je trouve, Noël, n'est-ce pas, de se retrouver en famille avec des personnes qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on apprécie d'une certaine manière, mais qu'on apprécie aussi un peu moins d'une autre manière. Et cela, parfois, ça relève des défis. Donc, je pense à vous comme vous pensez à moi. Mais j'aimerais qu'on prenne quelques temps, si vous voulez, de voir le dos de ce livret, le texte que nous venons de lire. Vous aurez besoin de cela, juste pour pouvoir suivre ce que je vais essayer de dire. Parce que cela nous parle de cet enfant qui est né à Noël, dont parlent les chrétiens, Jésus-Christ. Mais le 25 septembre de cette année-ci avait lieu la naissance la plus récente, à ce que je sache en tout cas, de notre assemblée. Est-ce qu'il est là aujourd'hui, Joshua? Je l'ai vu, je pense, à un moment donné, mais il est là. Ah, voilà, Kuhn, il a dans ses bras, Joshua Teugels. Et le faire-part de la naissance de Joshua disait ceci: Wir danken Gott für die Geburt von unser Sohn Joshua. Alors, si vous me connaissez, vous allez savoir que cela, c'était un grand exploit pour moi. Je suis allé rendre visite à Kuhn, à Suzy, à Joshua, avec mon épouse à l'hôpital. Nous avons félicité la maman et le papa. C'était un moment joyeux. Nous avons donné, comme tous ceux qui ont déjà eu des enfants le font, parfois de manière un peu énervante, des conseils, mais aussi des encouragements. Nous avons contemplé le petit Joshua avec admiration et joie. Mais ce que nous n'avons pas fait, c'était de nous agenouiller devant ce bébé pour lui offrir des cadeaux. Nous n'avons pas dit ceci à son sujet. Il nous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Mais le premier Noël, d'après déjà l'un des récits que nous avons lus, cela a eu lieu par rapport à un bébé historique, réel. C'est extraordinaire que cela a lieu, n'est-ce pas? Agir de la sorte devant un bébé. Pourquoi autant donc de bruit autour de la naissance de Jésus? C'est ça la question qu'on va essayer de traiter ensemble. Et pour nous aider, nous avons donc ce texte qu'on appelle un texte prophétique au sujet du Messie. Messie, c'est un terme technique qui signifie le roi désigné par Dieu, un roi promis dans les Écritures de la part de Dieu pour le peuple de Dieu, Israël. Et c'est un texte, comme disait Benjamin, écrit bien avant la venue de Jésus lui-même. C'est le prophète Ésaïe qui a écrit ce que nous avons lu. Un prophète quelques 700 ans avant la naissance de Jésus. Et ce que dit Ésaïe, en se projetant dans le futur, c'est trois choses, principalement au sujet de ce Messie, ce personnage qui devait encore venir. Alors, les trois choses sont les suivantes. Qui il est, ça on voit dans les trois premiers versets, et puis ce qu'il fait, nous le voyons dans les versets 3b à 5, et ensuite ce qu'il promet. Ça, c'est du verset 6 à la fin. Quand on parle des versets, si cela vous paraît étrange, ne vous inquiétez pas, cela nous paraît tous étrange quand on parle des versets, mais ce sont juste les lignes 1, 2, 3, les petits chiffres que vous voyez dans les textes. Dans la tradition chrétienne, on les appelle des versets. Alors, ce qu'il est, qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il promet. Et donc d'abord, qui il est, ce Messie? Et c'est un peu énigmatique, la façon de commencer ce texte, de présenter le Messie. Puis un rameau nous dit ce verset 1, sortira du tronc d'Isaïe. Maintenant, ce n'est pas Isaïe, le prophète, mais c'est un autre personnage, un homme qui s'appelle Isaïe. Et le rejeton de ses racines fructifiera. Ben, si vous voulez, c'est une façon imagée de parler d'un nouveau départ pour le peuple de Dieu. Autour de ce qu'on appelle ce rejeton. Ce rejeton viendra d'Isaïe. Isaïe, peut-être vous le connaissez aussi sous le nom de Jessé, c'est un personnage biblique. Un homme qui avait 8 fils, dont le dernier, le plus jeune, était David. Et David deviendra par la suite le roi le plus connu de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Mais l'accent ici, ce n'est pas sur David lui-même, c'est sur Isaïe, son père. Pourquoi cela? Pourquoi? Car cela rappelle, je pense, que Dieu agit de manière inattendue. Au lieu de choisir les 7 frères plus âgés que David, à la grande surprise d'Isaïe, le papa, Dieu a choisi David, le plus jeune, le garçon berger. Il n'était même pas quelqu'un d'important aux yeux de sa propre famille, David. Mais cet homme était désigné par Dieu pour de grandes choses. Et de même, un enfant né d'une famille relativement pauvre, dans un coin relativement perdu en Judée, en l'an 0, né d'une mangeoire, ne faisait pas non plus la une dans les allées de pouvoir à l'époque. Mais toutefois, de passer de côté de la portée du bébé né à Bethléem, ce serait une erreur, chers amis. Car de manière étonnante, tout comme cela a été le cas pour Isaïe, de manière étonnante, quelque chose de grandiose a lieu. Jésus, il est le descendant de David, le roi désigné par Dieu pour régner pour toujours. Quand nous dit ce texte au verset 2, ce rameau est doté de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, nous lisons. Et les expressions qui suivent dans ce texte dressent un portrait de ce Messie. D'abord, verset 2, il aura un esprit de sagesse et d'intelligence. Ce sont des attributs d'un juge, un bon juge, n'est-ce pas? Il exercera ses jugements avec sagesse et intelligence. Ensuite, il y a des qualités d'un bon militaire, un esprit de conseil et de vaillance. Ça, c'est quelqu'un qui s'est donné des conseils justes et à propos à ses subordonnés, qui a le courage de mener les hommes malgré le danger. Enfin, il aura, nous dit ce texte, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce sont des qualités nécessaires pour discerner comment appliquer la vérité dans notre vie de tous les jours, de connaissance, de manière à ce qu'il respecte la volonté de Dieu, la crainte de l'Éternel en toutes choses. Voici donc qui il est. Jésus-Christ, le roi promis de la part de Dieu, doté de l'Esprit de Dieu, parce qu'il vient de Dieu. Il est, pour reprendre des expressions au chapitre 9 que nous avons aussi lues avant la dernière lecture, il est le merveilleux conseiller, le Dieu puissant. Mais avant de vous demander ce que j'aimerais faire à la fin, ce qu'il en est de vous, ce matin, ce midi, et ce roi promis par Dieu, j'aimerais qu'on passe à notre deuxième constat. Qui il est d'abord, et ensuite ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Alors, au verset 3, nous lisons, « Il respira dans la crainte de l'Éternel. » Le Messie, parce qu'il est imprégné de la crainte de l'Éternel. Il démontrera une justice qui vient uniquement de Dieu. Le verset continue, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. N'avons-nous pas soif de cela, chers amis? Quelqu'un qui juge de cette manière-là? Peut-être d'un côté, dans les actualités du moment, pour savoir ce qui s'est réellement passé lorsque le président américain avait téléphoné le président ukrainien pour pouvoir faire distinction entre le bluff qu'on entend, entre l'esprit de parti qu'on entend aussi, et la vérité. Mais la même complexité, à une échelle peut-être plus petite, se trouve également chez le cœur de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Certains d'entre nous se retrouvent en famille à Noël, et nous savons que mettre toute la famille ensemble, surtout la famille élargie, implique des malentendus, des petits ressentiments, des frustrations. L'une ou l'autre personne exprime une opinion par rapport à toi, sans savoir toutes les infos te concernant ou sur base simplement des présupposés à ton sujet, non pas sur les faits, en attribuant éventuellement trop d'importance à ce que quelqu'un d'autre dit à ton sujet, et non pas ce que toi tu dis, et on doit réagir en famille par rapport à cela. C'est difficile de pouvoir juger, non pas sur l'apparence, non pas par rapport au oui-dire que nous entendons. Jésus-Christ, l'homme envoyé par Dieu, qui vient de Dieu, ne fait pas d'erreur de jugement. Il ne se trompe jamais par rapport aux faits. Il connaît tout, il ne favorise pas certains à l'encontre d'autres. C'est réconfortant cela, chers amis. Il jugera, nous dit ce texte, les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Pourquoi? Car verset 5, la justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Voici donc Jésus-Christ, ce qu'il fait. Et une nouvelle fois, j'ai envie de vous demander ce que vous en pensez. Car vous verrez qu'au milieu de ces versets 3 et 5, il y a le verset 4 qui nous dit « Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. De ses lèvres. Il fera mourir le méchant. » Vous voyez le moyen par lequel il gouverne son royaume? C'est par sa parole. Lorsque nous nous disons « C'est mon dernier mot », cela signifie que nous essayons de déclarer définitivement sur un sujet ou un autre. Nous n'irons pas voir Frozen 2. C'est mon dernier mot. OK? En fait, quelques-uns de ma famille sont allés voir Frozen, la reine des neiges, la reine de quelque chose, reine de... Voilà, vous avez bien compris. Et en fait, ils n'ont pas trop aimé. Mais peut-être là, je lance le polémique. À vous de découvrir cela. Notre dernier mot est souvent pas puissant. Mais le mot du Messie effectuera le jugement de Dieu. Du souffle de ses lèvres, nous lisons, il fera mourir le méchant. Alors nous sommes loin à ce stade, n'est-ce pas, d'un Jésus anodin qui sort de sa crèche une fois par an, tout mignon. Un tel Jésus ne peut rien faire pour du vrai. J'espère que vous le savez, chers amis. Le vrai Jésus, nous devons voir, ne peut pas se limiter à sa crèche. Alors, souvent dans notre famille, à Noël, nous essayons de faire un puzzle. J'ai toujours du mal avec ce mot. J'ai dû l'entraîner 2-3 fois avec mes enfants ce matin et Solveig vient de me dire que c'était OK. Un puzzle. Alors, tous ensemble, on va dire ce mot pour m'encourager. Un puzzle. Voilà, magnifique. C'est plus facile que j'avais pensé. Okay? C'est sympa de faire un puzzle à Noël, n'est-ce pas? Ça rassemble plusieurs personnes pendant un bon bout de temps. On discute, on découvre quelque chose en faisant quelque chose qui est assez difficile. C'est une belle tradition dans notre famille de faire cela. Mais vous savez ce qui arrive? Une fois que Noël termine, on remet le puzzle dans sa boîte. Et ça prend de la poussière. En fait, Samuel, tu veux bien juste me passer ce que vous avez en dessous de ta chaise? Voilà, voilà. Mais je vous ai trop loin pour voir, mais ça, c'est un puzzle assez ambitieux, je dois avouer. OK? Et une fois, on l'a fait, et une fois, on n'a pas pu le terminer parce que ça prenait trop de temps. Mais vous êtes trop loin pour voir, mais ici, il y a de la poussière. Parce qu'on l'a remis dans sa boîte. C'était utile pendant un temps, et puis, aujourd'hui, ça n'a plus d'utilité. Jusqu'à ce qu'on veut ressortir le puzzle de sa boîte. Parce que c'est un même danger avec Jésus-Christ, chers amis. Un personnage religieux qui fait partie d'une tradition culturelle pour certains, mais qui ensuite est remis dans sa boîte et prend de la poussière. Non, 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 non. Le Jésus dont on parle ici, dans cette prophétie, il est le Messie, le roi désigné par Dieu. Doté de l'Esprit de Dieu, il effectuera les jugements de Dieu. Qui il est, ce qu'il fait, et ensuite, pour terminer, ce qu'il promet. Ce qu'il promet. Car ce qu'il promet est extraordinaire, chers amis. Au verset 6, le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraissera ensemble et un petit garçon les conduira. Ben, nous lisons cela et nous réagissons, je l'espère, en disant « Non, 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 là, vraiment, vous vous trompez. Ça ne marche pas comme ça. Même pas à Noël. Mettre le loup et l'agneau dans une étable, même lors d'une douce nuit, et le lendemain, on ramassera les restes de l'agneau. C'est comme ça que ça marche. Tu aimerais que vos enfants, si vous en avez, prennent un veau et un lionceau pour une balade? Ah, vous n'avez jamais entendu parler de l'instinct animal? Alors que signifient tout d'un coup ces images que nous voyons dans ce texte? Le contexte autour de ce texte parle de la puissance des grandes nations de l'époque qui entourent le peuple de Dieu, une petite nation. Ça parle de l'Égypte, de l'Assyrie, de la dominance et de l'exploitation des petits de la part des grands. Et maintenant, ces paroles nous projettent vers un monde où la loi de la jungle ne s'appliquera plus. Si verset 7, la vache et l'ours auront un même pâturage, si le lion devient végétarien, il nous semble dans ces versets, cela vise de manière imagée un monde où on n'aura plus peur des plus puissants. Si le verset 8 parle d'un monde où le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic, cela prône un monde où il n'y aura plus de mort. Faire cela aujourd'hui, essayez de faire ça avec votre main, alors la mort se viendra rapidement s'ils nous sont piqués. Cela évoque le début de la Bible. La paix et l'harmonie du jardin d'Éden. En ce jour-là, verset 9, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, de Dieu. Il n'y aura ni tort ni dommage. Ce serait un lieu où il n'y aura plus de violence, plus de peur, plus de mort, plus de mal. Et vous n'avez pas envie d'un tel monde, c'est ce monde-là que Jésus-Christ promet. Alors, est-ce que trop bon pour être vrai? Trop bon, oui, mais vrai aussi. Bien sûr, si nous mettons Jésus dans la même boîte que le Père Noël, que Saint-Nicolas, c'est trop bon pour être vrai, ça c'est vrai. Mais nous sommes très loin d'un tel Jésus ici, nous l'avons vu. Nous avons affaire au juge désigné par Dieu qui a le pouvoir d'établir un royaume au-delà de toutes nos attentes. Et donc j'aimerais en guise de conclusion vous offrir deux raisons qui renforcent pourquoi nous pouvons affirmer que oui, c'est vrai ce que Jésus-Christ nous offre. D'abord parce que ce monde dont le prophète Ésaïe parle, Jésus, lorsque lui, il est venu sur terre, nous avait donné des indices d'un tel monde. Si vous lisez pour vous-même les récits de la vie de Jésus, ce que nous appelons des évangiles, nous aimerions bien que vous preniez un évangile en sortant, si cela vous ne l'avez jamais fait, vous allez trouver des épisodes dans la vie de Jésus qui témoignent de ce monde, de ce royaume qu'il prépare. Vous cherchez un monde sans souffrance, sans maladie. Jésus avait guéri des malades. Vous cherchez un monde sans violence, sans le mal. Jésus avait chassé des démons. Vous cherchez un monde sans la mort. Jésus avait ressuscité des morts à la vie. Les récits de la vie de Jésus racontent de tels événements car il témoigne de ce royaume encore à venir que Jésus seul peut rendre une réalité. Donc la première raison, c'est ce que Jésus a fait lors de son ministère. Mais la deuxième raison, c'est la mort de Jésus sur la croix. Car s'il y a une surprise que ce rameau, verset 1, est sorti du tronc d'Isaïe, c'est une surprise encore plus profonde et majestueuse d'apprendre que le Messie, le roi désigné par Dieu, avait terminé sa vie sur une croix. Méprisé, abandonné. Donc, est-ce pour finir tout ce qui précédait dans la vie de Jésus? C'était un peu de la flatterie. Il nous flatte d'un espoir et puis on termine déçu. Est-ce pour finir, il ne peut rien faire pour nous mener vers ce royaume à venir? Non, non, car ce monde parfait de paix ne peut pas connaître le mal. Le mal ne doit pas y être pour que ça soit un monde parfait. Et donc on demande, mais comment pouvons-nous y accéder, nous qui pratiquons le mal, ici, dans notre cœur? Si chacun d'entre nous entre dans le paradis, dès que nous y sommes, cela ne sera plus le paradis. Car à l'opposé de Jésus-Christ, nous ne pratiquons pas la justice à tout moment. Si nous sommes honnêtes, ce Noël même va témoigner de cette réalité. Le Christ, à la fin du verset 4, nous l'avons lu, fera mourir le méchant. Mais la mort de ce Christ, Jésus sur une croix, ouvre la porte pour que le méchant, nous tous compris dedans, soit pardonné. Pardonné. Sans compromettre la justice de Dieu. Parce que la merveille du message chrétien, c'est que Jésus-Christ, le roi désigné par Dieu, meurt de manière à ce que le jugement qui devait tomber sur nous, ceux qui ont pratiqué le mal, tombe non pas sur nous, mais sur lui. Le mal, donc, le péché, est puni. Dieu reste juste. Mais des pécheurs, comme vous et moi, puissent avoir accès à la présence de Dieu, au royaume de Dieu qu'annonçait Jésus. Car le roi désigné par Dieu, qui est juste, est un roi serviteur qui meurt pour nous, les injustes, pour que nos péchés, les miens, les vôtres également, soient pardonnés. Si nous nous tournons vers lui, il meurt pour que nous puissions vivre pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Car le roi de ce royaume l'a rendu possible. Il n'y a rien de plus précieux à connaître dans ce monde. Alors, nous avons vu qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il promet. Le Messie. Si certains cadeaux ramassent de la poussière après un certain temps, d'autres restent utiles. Moi, j'aime des cadeaux qui sont utiles, qu'on continue à utiliser. Je suis plutôt un homme assez pratique. Je sais que ça ne se voit pas pour certains, mais j'aime des choses pratiques. J'aime recevoir un bon couteau, par exemple, qui continue à coûter comme il faut pendant des années. De tels cadeaux sont utiles. Merci Seigneur. Donc, si vous y pensez, vous savez quoi il faut chercher. Le cadeau au monde qui est Jésus-Christ garde son utilité pour toute notre vie, pour une éternité. Et donc, Jésus est bien trop important de le laisser de côté, chers amis. Oui, c'est vrai que recevoir ce cadeau-là, suivre Jésus comme le roi, peu importe le prix pour chacun d'entre nous, cela demande que nous remettions en question l'ensemble de toute notre vie. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas rien. Mais Jésus-Christ est digne de votre foi, de votre confiance. Et donc, je vais terminer juste avec une citation de Jésus pour nous encourager ce Noël, aujourd'hui, de nous consacrer notre vie, de le consacrer notre vie. Voici ce que disait Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie.